Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
COVID-19. COVID vaccine.
COVID vaccine. COVID vaccine. COVID vaccine. COVID.
Bonjour. Tous les pays européens regardent approcher la saison hivernale en espérant affronter au mieux la prochaine vague de Covid. D'ici la fin de l'automne, les plus exposés au coronavirus seront les enfants de moins de 12 ans, la catégorie de la population qui n'a pas encore accès au vaccin. En Allemagne, c'est ce que ne cessent de marteler les virologues depuis quelques semaines. Pour freiner l'épidémie, l'allemand BioNTech a annoncé vouloir faire rapidement homologuer son vaccin pour les plus petits. C'est une lueur d'espoir pour les familles oubliées de cette pandémie, celles avec des enfants souffrant de graves pathologies et donc particulièrement exposées aux risques liés au coronavirus. Certaines de ces familles ont décidé de ne plus attendre et de tout entreprendre pour faire vacciner leurs enfants, malgré l'absence d'autorisation officielle des autorités. C'est un reportage depuis Berlin de Julien Méchaussi.
Parvis de l'imposante mairie de Berlin à deux pas de l'Alexanderplatz, quelques dizaines de parents se sont rassemblés pour protester contre le danger auquel sont exposés les enfants à l'école. Ils dénoncent une épidémie à venir des enfants. Beaucoup s'engagent pour une levée temporaire de l'obligation scolaire et la prise de mesures sanitaires beaucoup plus strictes. Pour l'une des organisatrices de ce rassemblement, Undine Balk, la vaccination constitue la seule réelle solution.
Nous n'avons actuellement que deux options, la vaccination ou l'infection. Il est donc primordial de protéger ceux qui n'ont pas accès à la vaccination, les enfants de moins de 12 ans. Il faut tout faire pour autoriser le plus rapidement possible la vaccination des enfants contraints d'aller à l'école où ils sont fortement exposés au virus. Bien sûr que ce sont les parents qui doivent avoir le dernier mot et ce sont les seuls à décider. Mais je le répète, il n'y a que deux options, infection ou vaccination. Si nous voulons protéger les plus petits, il faut les vacciner. Un point, c'est tout.
Sébastien profite de la fin de l'été pour savourer un café en terrasse, une sortie devenue impossible pendant près de 15 mois pour ce père de jumeaux, jusqu'à ce que sa fille, âgée de 7 ans, soit enfin vaccinée. Née avec un lourd handicap physique, la fille de Sébastien a pu enfin reprendre les cours il y a quelques semaines. L'exposé au coronavirus aurait pu avoir des conséquences mortelles. La seule issue pour cette famille a été de s'isoler complètement pendant plus d'une année.
Avec cette très longue quarantaine, nous sommes devenus invisibles pour la société. C'est comme si nous avions disparu de l'espace public. Cet isolement contraint pour protéger nos enfants nous a comme effacés aux yeux de la société. Alors que dans le même temps, vous aviez des gens qui manifestaient contre les mesures sanitaires. Eux se faisaient entendre pendant que nous disparaissions. C'était terrible. Et par peur d'exposer nos enfants au virus, nous n'osions pas nous aussi manifester.
Dès l'été 2020, lorsque les médias commencent à évoquer la perspective proche de vaccins, Sébastien cherche à alerter sur sa situation partagée par des dizaines de milliers de familles. Avec d'autres parents, il écrit des centaines de courriers électroniques à des médecins, des cliniques universitaires. Mais il obtient très peu de réponses ou quand il en reçoit, il comprend très vite que son cas n'est pas prioritaire. Comme en France, la vaccination des enfants de moins de 12 ans ici n'est pas encore autorisée, mais il existe un moyen de passer outre, l'usage off-label. Un procédé qui permet aux médecins de prescrire des médicaments ou de vacciner des enfants malgré l'absence d'autorisation, et ce avec un dosage inférieur à celui des adultes. Le médecin doit toutefois accepter d'engager sa responsabilité en cas de complication. Après 4 mois de recherche, Sébastien et sa femme trouvent enfin un médecin qui accepte de vacciner leurs jumeaux. Depuis, avec d'autres parents, il aide via les réseaux sociaux des familles qui partagent le même sort et fait face au climat hostile du mouvement anti-vaccin.
Quand nous mettons en relation des parents avec des médecins, nous avons l'impression d'être les acteurs d'une conspiration. Pour minimiser les dangers, nous évitons de connaître personnellement les médecins. Souvent, cela se fait par un intermédiaire. Nous sommes angoissés à l'idée de mettre un médecin en relation avec une personne qui se fait passer pour un parent alors qu'elle fait partie du mouvement anti-vaccin. Et dans le même temps, nous avons des parents désespérés pour qui le vaccin est la seule issue de secours et qui nous demandent où trouver une piqûre pour leur enfant. J'ai parfois l'impression que nous sommes des trafiquants de drogue, tant nous sommes contraints à agir dans l'ombre, alors que nous ne sommes que des intermédiaires entre des parents et des médecins. Nous devons nous cacher, bien que notre action reste dans le cadre de la légalité.
Un engagement qui a amené Sébastien à être la cible de menaces, comme lorsqu'il lui a été prédit de finir pendu à un arbre de la cour de l'école.
Ma fille a pu profiter d'un vaccin grâce auquel elle est désormais protégée. Pourquoi devrais-je me cacher et ne pas faire profiter les autres de mon expérience? Faire savoir qu'il est possible de protéger mes enfants, de leur rendre leur vie sociale. Je n'ai pas à en avoir honte, mais nous vivons une époque qui rend tout très compliqué. Oui, j'ai peur pour mes enfants, qu'ils deviennent la cible d'attaque. Mais je n'ai pas peur pour moi, je n'ai pas peur d'être une cible.
En Allemagne, la vaccination pour les enfants de moins de 12 ans devrait démarrer au début de l'année 2022.
En Autriche, le droit de faire l'école à domicile date d'une époque où la noblesse préférait les précepteurs à l'école publique. Mais aujourd'hui, les parents qui choisissent de retirer leurs enfants du système scolaire appartiennent à toutes les classes sociales. Et le phénomène s'est encore accentué ces derniers mois. Beaucoup d'enfants font l'école à la maison pour cette rentrée. C'est une conséquence de la pandémie. À Vienne, Céline Béal.
En cette rentrée, quelques 5600 petits Autrichiens n'iront pas à l'école. Leur nombre a plus que doublé en un an. Les médias locaux attribuent ce boom des désinscriptions à la pandémie. Et davantage que le virus, ce sont les mesures sanitaires qui semblent pousser les parents à ce choix. Port du masque et 3 tests obligatoires par semaine, ils n'en veulent pas pour leur bambin. Les parents peuvent donc choisir de faire la classe eux-mêmes, ou encore opter pour une école non reconnue par la République, à la pédagogie alternative ou religieuse par exemple. Mais à la fin de l'année scolaire, les enfants doivent passer un examen pour montrer qu'ils ont bien le même niveau que leurs camarades scolarisés. Et attention à ne pas confondre, à la différence des cours à distance auxquels on a dû s'habituer depuis le début de la pandémie, les élèves déscolarisés ne pourront pas compter pendant l'année sur l'aide et le suivi des enseignants professionnels accrédités. Le système autrichien est très laxiste en matière d'école à la maison. Les parents enseignants ne sont même pas obligés d'avoir eux-mêmes accompli la totalité de la scolarité obligatoire. Le ministre de l'Éducation a maintenant annoncé vouloir serrer la vis. Les enfants déscolarisés devront passer un examen dès le premier semestre et pas seulement à la fin de l'année. Et le choix de l'école où se passera cet examen ne sera à l'avenir plus laissé aux parents. En revanche, le ministre refuse d'en profiter pour faire des réformes plus profondes. Il parie sur une mode passagère. Les enfants, selon lui, ne tarderont pas à retrouver le chemin des écoles de la République.
Médicaments. Voulez-vous prendre ceci, je vous prie? Ce sont des pilules, ça vous soignerait. Ouvrez la bouche. Tenez.
Yeah! Au Royaume-Uni, les autorités réfléchissent à la prochaine étape pour se protéger du virus. Vaccination, 3e dose ou traitement curatif. Fin août, l'agence du médicament britannique a approuvé l'utilisation d'un traitement anti-Covid, le Ronaprev. Certains pays européens, la France notamment, ne l'autorisent que de façon préventive. Mais les Britanniques semblent avoir à chaque fois une petite longueur d'avance sur la question, Marie Billon.
Le Ronaprev, c'est un produit dédié aux personnes les plus à risque, celles qui arrivent à l'hôpital avec Covid et qui pourraient développer une forme grave. Les Britanniques ont été les premiers, en Europe, à approuver ce traitement à base d'anticorps. Il empêche la pénétration du virus dans les cellules. Le Royaume-Uni se targue d'être plus ambitieux et plus rapide dans l'approbation des traitements du Covid. Londres a approuvé l'antiviral Remdesivir en mai 2020 et puis le stéroïde Dexamethasone en juin 2020, à chaque fois 2 mois avant l'Europe. Début 2021, le Royaume-Uni avait déjà approuvé un traitement à base d'anticorps, le tocilizumab, pour les patients hospitalisés atteints de pneumonie. L'Agence européenne du médicament est en train de l'étudier. Si les Britanniques semblent avoir un train d'avance, c'est qu'ils ont très rapidement investi dans la recherche, notamment l'équivalent de 2,4 milliards d'euros dans l'essai Recovery, le plus grand programme de recherche du pays. Il est mené par l'Université d'Oxford. Ce sont ses travaux sur l'hydroxychloroquine qui ont contribué à l'éliminer comme traitement potentiel et ses recherches sur la dexaméthasone ont confirmé son efficacité. Recovery est toujours en cours et teste plusieurs modes d'administration et traitement, là encore, en majorité avec des produits déjà prescrits pour d'autres maladies qui peuvent potentiellement aider à combattre le Covid. Recovery effectue majoritairement ses essais au Royaume-Uni, mais a aussi des accords avec 3 pays d'Asie.
À l'heure où en France il faut un pass sanitaire pour entrer à l'hôpital, l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière est encore plus compliqué. Pour s'en rendre compte, Alice Rouja s'est rendue à Paris dans un centre d'accueil de Médecins du Monde.
Oui, bonjour monsieur.
Il est 10h ce matin-là et le centre d'accueil, d'orientation et d'accompagnement est déjà plein à cause des limitations liées au coronavirus. Dans la salle d'attente, une dizaine de personnes assises. Elles seront reçues par du personnel de Médecins du Monde. Les autres devront repasser le lendemain.
Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, préparez votre dossier.
Naïma vient pour la première fois. Elle est arrivée en France il y a quelques mois depuis l'Algérie pour se faire soigner d'un cancer. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Avec le Covid, ça fait depuis décembre, j'ai pas fait les soins. Maintenant, ça y est, j'étais à l'hôpital. Mais maintenant, j'ai plus de prise en charge pour l'année 2021-2022. C'est pour ça que je suis aujourd'hui là, une aide médicale de l'État, pour faire ma première demande. Voir une assistante sociale, si elle peut m'orienter. Et je dois voir aussi une assistante sociale de l'hôpital. Alors, je suis en train de voir partout. On m'a dit que Médecins du Monde, ils vont vous aider, je suis là.
Ici, on ne dispense pas directement des soins, explique Charlie. Il travaille dans le centre depuis plus d'un an.
Le but du centre, c'est d'être un peu une passerelle entre les personnes et le droit commun. Donc nous, on a vraiment un but de raccrocher les personnes à une couverture maladie ou à des soins dans les hôpitaux, principalement pour les personnes en situation régulière.
Ces personnes ne disposent pas d'un numéro de sécurité sociale, le sésame français de l'accès aux soins. Il y a des régimes de couverture maladie spécifiques, comme l'aide médicale d'État, l'AME, mais pour en bénéficier, il faut remplir un certain nombre de critères et maîtriser les démarches administratives. Cela n'est pas évident, surtout quand on ne parle pas bien la langue. Chez Médecins du Monde, on estime que plus de 70% des personnes qui pourraient avoir une couverture maladie ne l'ont pas.
Un dossier de demande d'aide médicale d'État. Donc ça, c'est le formulaire que les personnes doivent remplir.
Marthe travaille au centre. Elle a le dossier d'un bénéficiaire entre les mains.
Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui travaille. Donc pour le moment, il est éligible à l'AME par rapport à ses ressources. Mais en fait, l'année prochaine, probablement non, parce qu'il aura travaillé plus. Donc il a des fiches de paie, c'est du travail déclaré, ce qui veut dire que l'année prochaine probablement il pourra pas avoir l'AME parce qu'il dépasse le plafond, mais il aura pas la sécurité sociale comme nous tous qui travaillons. Il l'aura pas parce qu'il est en situation irrégulière. Et donc lui, il aura typiquement pas de moyen de se faire soigner.
Et c'est le cas de beaucoup de personnes en fait, d'être dans cet entre-deux, ni l'AME ni la CMU.
Ouais. On en rencontre pas mal de travailleurs comme ça précaires, des livreurs à vélo, des personnes qui font du ménage, etc.
Et le travail de Médecins du Monde ne se limite pas à cela. Beaucoup d'étrangers ont aussi des problèmes d'accès au logement, par exemple. Derrière un bureau, deux accueillantes discutent d'une femme passée par le centre ce matin.
Il faut la remettre, je sais pas où, mais elle est à la rue, là. Tu peux lui donner une adresse d'accueil de jour pour femme pour qu'elle puisse reposer dans la journée et se mettre à l'abri. Et puis lui donner un rendez-vous pour un accueil social parce qu'elle était arrivée avec un visa. Là, son visa est expiré et elle est complètement perdue.
Avec la pandémie, toutes ces difficultés se sont accentuées. Le centre a dû fermer pendant les périodes de confinement. Et sans couverture maladie, il est très difficile de faire un test PCR ou bien d'accéder à la vaccination et donc au pass sanitaire, indispensable pour se rendre dans les hôpitaux ou permanence d'accès aux soins de santé. Karine Roland est la présidente de Médecins du Monde.
On ne pourra se débarrasser d'une pandémie que si l'ensemble des personnes présentes sur un territoire ont le même accès, soit aux mesures de prévention, les gestes barrières, l'eau pour se laver les mains, la possibilité de s'isoler quand on est malade, soit au même traitement. Là, on peut parler, enfin c'est aussi les mesures préventives, mais qu'on ait le même accès au vaccin, par exemple. Et nos populations n'ont pas un taux de vaccination qui correspond au taux de vaccination de la population française.
Chaque jour, le centre reçoit plusieurs dizaines de personnes et s'efforce de les orienter au mieux. Ici, aucun pass sanitaire n'est demandé à l'entrée.
Accent d'Europe vous emmène faire le voyage de l'espoir en Italie. C'est la chronique en un mot de cette semaine. En français, ça sonne plutôt bien, le voyage de l'espoir, il viaggio della speranza, mais en italien, c'est tout l'inverse. On retrouve cette expression derrière de nombreuses arrivées de bateaux de migrants sur les côtes italiennes. Les explications de notre correspondante Cécile Debarge.
Il viaggio della speranza, littéralement en français voyage de l'espoir, apparaît pour la première fois dans les colonnes du quotidien La Repubblica en 1985, si l'on se réfère au gardien de la langue italienne, le dictionnaire Trecani. Et aujourd'hui, c'est un mot que l'on entend partout. Dans la chanson Viaggio della speranza, le chanteur de Famiglia del Sud raconte l'odyssée d'un migrant qui vient de quitter sa terre.
Non ho avuto il tempo di salutare mio fratello che partiva in barca.
Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon frère qui est parti en bateau avec ses chaussures et son écharpe, racontent les paroles. Embarqués sur un bateau de fortune dans l'espoir d'une vie meilleure, prêts à traverser la Méditerranée au risque de leur vie, c'est l'un des sens les plus courants de l'expression « voyage de l'espoir », explique Serena.
Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui du voyage qu'entreprennent les migrants pour venir en Europe.
En 1990, un film du réalisateur Xavier Koller raconte l'odyssée de migrants et le titre traduit de l'allemand est « Le voyage de l'espoir ». Mais l'expression va en réalité bien au-delà. En fouillant dans les archives du vieux cinéma italien, on retrouve un petit film de 7 minutes intitulé « Le voyage de l'espoir ».
Milano li affascina. È la città dell'industria. È un immenso cantiere che può dar lavoro a chiunque abbia buone braccia e una gran voglia di lavorare.
Cette fois, il raconte une autre migration, celle des Italiens du Sud vers le nord du pays, ayant quitté leur terre pour trouver du travail dans la riche et industrielle Milan. Certains, comme Antonietta, y voient une origine plus ancienne encore.
Je pense qu'en général, ça doit avoir un lien avec les croyances autour de la Bible et par exemple le voyage vers la terre promise.
Un voyage vers une terre meilleure, une terre promise, mais à quel prix?
C'est comme un rêve difficile à atteindre et donc le voyage à entreprendre pour y parvenir est interminable.
Pas étonnant donc de retrouver l'expression utilisée fréquemment par les habitants du sud du pays pour décrire leur voyage en transport en commun, souvent vieillissant et peu efficace, détaille Serena.
Je peux utiliser la même expression pour décrire un voyage long, inconfortable, mais qui en général ne coûte pas cher. Par exemple, la première image qui me vient à l'esprit, c'est une file de voitures bloquée sur l'autoroute, ou le fait de choisir un moyen de transport comme le bus plutôt que l'avion, qui certes sera plus confortable, mais aussi plus cher. Ou encore, pour un voyage en train, le fait qu'il y ait un retard ou un accident et qu'un voyage normal devienne alors un voyage de l'espoir.
Sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, il suffit de taper « voyage de l'espoir » pour retrouver des vidéos tournées par des usagers qui se plaignent des conditions de voyage. Comme cet extrait récent où pour voyager de Reggio de Calabre à Tarente, de la Calabre aux Pouilles, les voyageurs ont dû se satisfaire d'un vieux wagon à deux voitures des années 70.
Ma questo è quello per Reggio Calabria, degli 8:20.
Mais alors, pourquoi utiliser l'expression « voyage de l'espoir » plutôt que « voyage de l'enfer », par exemple? Christina aurait bien la réponse.
En général, en italien, on l'utilise pour tous les cas où, pour atteindre un objectif ou un but, il faut, pour y parvenir, faire face à toute une série d'événements inattendus, voire désagréables. Et donc, ça devient un voyage de l'espoir parce que seul l'espoir pourra te faire croire que tu parviendras à ton but ou à ton objectif.
Derrière cette expression commune, il y aurait finalement dans la langue italienne un message plutôt encourageant. Avec beaucoup d'espoir et en y croyant toujours, on finit par arriver partout. Ne dit-on d'ailleurs pas en français que tous les chemins mènent à Rome ?
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.